tous les États membres à redoubler d'efforts pour faire en sorte que les décisions prises ici se traduisent par des avantages tangibles pour nos citoyens.
La rupture entre l'AES et la CDAO s'est faite après le coup d'État au Niger en juillet 2023. L'organisation ouest-africaine avait alors menacé d'intervenir militairement et imposé de lourdes sanctions à Niamey. Ces sanctions ont été levées. Les trois membres de l'AES ont pris plusieurs mesures pour cimenter leur confédération. Ils ont pris la décision d'harmoniser leurs documents de voyage et d'identité et signé un protocole d'accord sur la fin des frais d'itinérance, des communications téléphoniques, le roaming entre les trois pays.
Le décor est planté, il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités avec nous dans cette émission via Skype de Long Island dans l'état américain de New York. Kumbaba, militante pro-démocratie d'origine malienne, aux commandes du programme citoyen Moussouya, elle a notamment travaillé pour ONU Femmes. De Dakar au Sénégal, Ibrahima Kane, analyste politique et un des membres fondateurs de la Rado Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Et en direct de la ville de Lille en France, Kak Sanoussi, président de l'Institut international de gestion des conflits d'origine togolaise. Il est l'auteur de 7 ouvrages, dont Agama, l'art de gouverner, publié en 2022. Le Burkina, le Mali et le Niger qualifient leur sortie imminente de la CDAO d'irréversible. Ibrahima Kane, s'agit-il en réalité d'un acte de souveraineté assumé ou d'un coup de bluff politique pour négocier de meilleures conditions ?
Alors, c'est un acte politique majeur de la part de ces trois États. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais est-ce que c'est pour mieux négocier? J'en doute, parce que dans le communiqué que la CDAO a publié après son sommet et qui a acté le départ des trois pays, la CDAO a réaffirmé le principe qu'aucun pays de la CDAO ne peut être dirigé par des militaires, et la CDAO est contre tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et je pense que de ce point de vue, la question est claire, elle est réglée, et maintenant les États vont être obligés de négocier avec la CDAO les modalités de leur sortie, et c'est les 6 mois qui sont donnés à la Commission pour le faire. Aujourd'hui, les États de l'AES ont définitivement quitté la CDAO.
L'Alliance des États du Sahel accuse la CDAO d'être instrumentalisée par la France notamment. Kumbaba, cette critique est-elle fondée ou est-ce un discours populiste des régimes militaires au pouvoir dans les trois pays en question? Discours destiné à asseoir leur légitimité auprès de leur population?
Bon, je pense que l'accusation vis-à-vis de la CDAO d'être très proche des pouvoirs européens, spécifiquement l'ancien colonisateur, la France, est fondée. Parce que quand on voit particulièrement la menace suite à le changement de pouvoir non constitutionnel au Niger, quand la CDAO avait décidé de son intervention militaire, on a bien vu que parmi les États européens ou les pouvoirs même occidentaux, c'est le pouvoir français qui s'est automatiquement aligné et a même proposé son appui à la CDAO pour pouvoir intervenir militairement dans ces pays. Or, contraire à d'autres membres de l'Union européenne comme l'Allemagne ou comme même l'Angleterre n'est plus membre, mais beaucoup de pays européens se sont abstenus. Même les États-Unis n'ont pas proposé d'appuyer l'intervention militaire. Mais la France est sortie ouvertement pour le dire. Et nous avons quand même un passé colonial et l'histoire a tendance à se répéter. Donc, ça serait quand même... Parce qu'il y a aussi, on sait qu'en diplomatie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sous la table, mais l'attitude ouverte et publique de la France quand même démontre qu'elle n'est pas neutre vis-à-vis de la prise de position de la CDAO. Ceci est malheureux. Et je pense que ça a plus a rendu la situation difficile, car que ça l'a aidé. Et il y a beaucoup de documents aussi et de reports que l'Union européenne elle-même a écrit pour catégoriser ses différents membres en trois. et parmi ceux qui sont les plus aptes à pousser la CEDEAO à intervenir, le nom de la France est cité. Mais quand on voit par exemple un pays comme l'Italie ou l'Espagne, on voit que leur position est beaucoup moins favorable. Donc on va dire oui, c'est fondé.
Oui. Alors, Kak Sanoussi, nous venons de l'entendre, la CEDEAO a proposé une période de transition jusqu'à juillet 2025 pour ramener ces pays dans le giron de l'organisation. Pourquoi, selon vous, cette proposition a-t-elle été formulée si tard? Et plus important, est-elle crédible?
Je pense que cette proposition a sa pertinence. Parce qu'il est important qu'on ne s'arrête pas sur ce qui s'est passé dans l'immédiat, la sortie, il faut voir plus loin. Et je suis convaincu que cette sortie n'est pas simplement conjoncturelle, je dois dire, par rapport au coup d'État. À travers cette sortie, il y a des questions qui ont été posées, des remarques qui ont été faites, qui sont des questions de fond, des questions structurelles. Je pense que ce délai qui est donné est un délai important, et non pas pour que les États de l'État de l'AES reviennent dans la CEDEAO, mais je pense que nous rentrons dans une forme de négociation inclusive, de telle sorte qu'on parvienne à créer quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes focalisés, on dirait, dans deux blocs. On pense que soit on est dans la CEDEAO, ou on n'est pas dans la CEDEAO, ou on doit vivre autrement. Je pense qu'il y a une voie qui peut permettre à ce que les deux entités puissent collaborer et voir l'évolution. Parce que si on entend bien ce qui se dit, les États de l'AES, dans l'état actuel, je ne pense pas qu'ils vont revenir dans la CEDEAO. Étant entendu que pour l'instant, nous n'entendons pas toutes les formes structurelles que la CEDEAO a envie de faire elle-même. Parce qu'il faut tenir compte de ce qui est dit et faire en sorte que la médiation qui est engagée depuis quelques temps maintenant puisse amener les deux parties à trouver des points de convergence utiles, minimes, pour faire que l'harmonie puisse régner et des sujets vraiment d'importance en termes de sécurité, en termes de diplomatie, en termes d'économie, en termes de la circulation des biens et des personnes, soit quelque chose qui ne pénalise pas les peuples. Je pense qu'il y a quelque chose à construire dans les 6 mois à venir qui ne sera pas le retour, mais qui sera un accord, je dirais, harmonieux pour que les deux peuples puissent vivre ensemble.
En tout cas, le départ effectif de ces 3 pays qui représentent un vaste territoire de 72 millions d'habitants est vu comme étant susceptible de bouleverser la libre circulation des biens et des personnes. Ibrahim Akan, comment ce retrait pourrait-il affecter concrètement les économies locales et les populations d'après vous?
Alors, de ce point de vue, il est d'abord important de savoir que la part de ces 3 pays dans le produit intérieur brut de la CEDEAO est un peu faible. Ça fait à peu près 15%. Ces pays-là ont moins de commerce entre eux qu'avec les autres pays de la CEDEAO. Par exemple, l'essentiel du commerce du Niger et avec le Nigeria. Une grande partie du commerce du Mali, c'est avec le Sénégal et avec la Côte d'Ivoire. Et c'est seulement le Burkina qui partage aussi une partie de son commerce avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc ce qui fait que la gestion de la libre circulation des personnes et des biens dans ces 3 pays se fera de façon totalement différente. N'oublions pas également que ces 3 pays sont membres de l'UEMOA. Donc ce qui veut dire que pour les autres 5 pays membres de l'UEMOA, il n'y aura pas vraiment à proprement parler de nouvelles règles, puisque les règles de l'UEMOA, de la libre circulation des personnes et des biens, va fonctionner. Maintenant, pour le Niger et pour le Burkina Faso, il y aura nécessairement un dialogue avec le Ghana et le Nigeria, et avec la CEDEAO, pour trouver de nouvelles règles de circulation des personnes et des biens. Et ça, ça fera partie des négociations qui auront cours dans les 6 mois à venir.
Kumbaba, les habitants du Burkina, du Mali et du Niger subissent depuis des années une montée en puissance des groupes djihadistes. La CEDEAO a-t-elle failli dans son rôle sécuritaire? Et ces 3 États ont-ils réellement une stratégie plus efficace pour combattre le terrorisme?
Oui, bon, avant que je ne réponde à cette question, je voudrais quand même, même si elle ne m'a pas été adressée, par rapport aux 6 mois de rajout qui ont été donnés pour faciliter les négociations, moi en tout cas, je pense que l'AES, la Confédération, doit faire très attention C'est vrai que des fois, on nous accuse d'être trop dans la paranoïa, mais parce que la CEDEAO avait eu un an pour pouvoir utiliser toutes les voies et recours pour faire de la médiation si elle jugeait nécessaire que les trois pays de l'AES restent. Mais vu le délai et tout ce qui se trame, et particulièrement, il y a un rapport que le Conseil européen des relations internationales ou des affaires étrangères avec un journaliste qui a écrit Will Brown, si je ne me trompe pas, c'est en octobre. Ce rapport-là disait bien qu'il y a de très fortes chances que dans un an maximum, un des régimes de la Confédération de l'AES chute. Moi, je pense que la CEDEAO est en train de faire du dilatoire et les chefs de l'État de la Confédération ont tout à apprendre de ceux qui se trament. Maintenant, la montée en puissance des groupes terroristes, c'est vrai, mais on sait aussi que ça fait 10 ans qu'on se bat corps et âme pour pouvoir éradiquer avec tout l'appui nécessaire de la communauté internationale, en particulier la mission onusienne et les différentes missions européennes et françaises qui étaient là pour appuyer nos États. Donc, pendant la présence de la communauté internationale dans la Confédération des États de l'AES, on n'a pas eu gain de cause. Mais on a vu que, malgré qu'on est entre nous, avec l'appui des partenaires russes, nous voyons quand même que nous avons pu prendre beaucoup de villes stratégiques et nous recouvrons petit à petit l'intégrité territoriale de nos États. Nous voyons aussi que, quand on voit les différents rapports, je pense qu'il y a un institut des études de la guerre basé à Washington qui a bien écrit que quand on compare de janvier à septembre 2023 et quand on compare janvier à septembre 2024, qu'il y a eu beaucoup moins de drones, il y a eu beaucoup moins d'interventions militaires sur le terrain dans l'état de l'AES comparé à un an avant. Donc ce qui montre que même si on n'intervient pas quantitativement, qualitativement, nous sommes faisons des avancées. Donc ce n'est pas facile, il reste une guerre, ça fait 10 ans qu'on est là-dedans, donc ça ne peut pas être gagné du jour au lendemain.
Kak Sanoussi, en quoi la création d'un espace sans visa par l'AES réservé aux ressortissants de la CEDEAO est-elle paradoxale alors que ces pays sont résolus à se retirer du bloc régional? N'est-ce pas là un aveu des limites de leur indépendance économique, d'après vous?
Absolument pas. Je pense que c'est justement les résultats aussi de la médiation qui a commencé. Et par rapport que disait Mme Koumba tout à l'heure, je voulais insister un peu dessus. Parce que la médiation qui a commencé, ce n'est pas une médiation qui était nulle et qui n'a rien produit. Souvenez-vous, quand ça a commencé au niveau du Niger, s'il n'y a pas eu de la médiation, s'il n'y a pas eu donc de la facilitation, on aurait connu la guerre entre la CEDEAO et le Niger. Donc je crois que la médiation qui est en cours aujourd'hui a permis de régler un certain nombre de choses, a permis d'apaiser les tensions, a permis de dialoguer avec les chefs d'État de ces trois pays et aussi les gens au niveau de la CEDEAO. Donc c'est un élément important. Et je pense qu'il faut prendre le fait que les États de l'AES ont ouvert leurs frontières à tous les citoyens de la CEDEAO comme un appel aussi à cette union. Une possibilité pour construire autre chose, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, tout qui vient, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, nous savons qu'il est impossible aux États de l'AES de revenir de la CEDEAO. Et on peut se demander la question, est-ce que c'est la finalité ou est-ce qu'on peut construire autre chose entre les États de la CEDEAO et l'AES? Parce qu'in fine, vous savez, on dit que le conflit n'est jamais forcément quelque chose de négatif. Le conflit peut aider à aller au meilleur. Parce qu'il ne faut pas simplement faire le varan, c'est-à-dire que l'animal qui entend une parole et ferme ses oreilles pour ne plus rien entendre. S'il y a eu un conflit, si les États sont sortis de la CEDEAO, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Et que tout le monde, on doit travailler dessus. Et je pense que à l'issue de cette crise, ou en profitant de cette crise, on peut envisager cette communauté autrement et faire en sorte que les évolutions de part et d'autre permettent de constituer peut-être une prochaine CEDEAO dans laquelle chaque parti se retrouverait. Et je pense que c'est ça l'enjeu des médiateurs. Les médiateurs ne sont pas naïfs, ils connaissent les enjeux. Et je pense qu'en maintenant le lien, c'est de se dire que nous sommes des frères et des sœurs, on peut se fâcher, mais on vise une finalité. Cette finalité, elle est possible si on est tous montés, rodés dans cette manière de faire en disant qu'on n'est pas d'accord aujourd'hui pour des raisons certainement importantes et structurelles, mais on peut les dépasser et construire autre chose. C'est pour cette chose-là que je pense qu'il faut avoir à l'esprit, plutôt que de dire que tel va revenir dans tel temps, tel va dans tel temps. Ce ne serait pas possible, à mon avis, à court terme, mais penser à autre chose, quand c'est possible.
Voilà, on va essayer d'aller très vite, n'aller nulle part ailleurs, s'il vous plaît, madame et messieurs et chers téléspectateurs de la VOA fidèle. Merci, on revient après cette courte pause. Merci.
Nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full B.
Dans des Full B, braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des foulées en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des foulées de 16h30 à 17h temps universel, sur VOA Full Day.
Merci de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 19 décembre 2024. Merci d'être avec nous. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois États gouvernés par des régimes militaires depuis des coups d'État successifs entre 2020 et 2023, ont tourné le dos à l'organisation régionale de la CEDEAO, à tel point que même des rues, des boulevards, places publiques et établissements sont rebaptisés, comme les près de 25 lieux de Bamako qui ont été renommés hier mercredi par les autorités maliennes, des lieux qui évoquaient le bloc ouest-africain et l'ancienne puissance coloniale française. L'avenue CEDEAO devient l'avenue LAES, du nom de la nouvelle confédération formée par ces trois pays. La place de la Confédération des États du Sahel remplace la place du sommet Afrique-France. Je vous propose maintenant quelques commentaires à Facebook. Djibo Abdou Abdoulaye de Niamey au Niger. La CEDEAO et l'AES forment les mêmes peuples. Elles sont liées par l'histoire et la géographie. La preuve, les dernières décisions prises par les deux organisations n'ont pas parlé des nouvelles mesures contre les ressortissants des deux organisations dans leur espace. Je félicite et encourage la médiation sénégalaise du président Bassirou Diomaye Faye auprès des chefs d'État de l'AES. Siribé Tiboko Bobo Dioulasso, Burkina Faso, le Sénégal et le Togo ne peuvent rien faire pour faire retourner l'AES de la CEDEAO. De toute façon, le retrait est officiellement en janvier 2025. Et voilà pour ces quelques commentaires Facebook. Sans plus tarder, nous retrouvons nos invités de Long Island dans l'État américain de New York, Kumbaba, défenseur des droits humains d'origine malienne, fondatrice de SOS Démocratie, animatrice et initiatrice du talk show Moussouya. Elle est engagée dans divers domaines, dont l'industrie alimentaire et l'aviation civile. De Dakar au Sénégal, Ibrahima Kahan, analyste politique, ex-directeur du bureau de plaidoyer de l'Open Society Foundations auprès de l'Union africaine, et notre troisième invité de Lille, en France, Kak Sanoussi, président de l'Institut international de gestion des conflits, également universitaire et au cadre de la fonction publique. Alors, reprenons la conversation. Ibrahima Kahan, les dirigeants de l'AES se rapprochent de partenaires tels que la Russie. Ce nouveau scénario ne risque-t-il pas d'exacerber la rivalité entre les puissances étrangères en Afrique de l'Ouest, notamment entre la Russie et les alliés traditionnels comme la France et les États-Unis?
Pas tout à fait. Vous savez, ce qui est clair et certain, c'est que de plus en plus, le continent retrouve, je ne sais pas ça, ce que je dirais, l'indépendance qu'il a toujours cherchée en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, l'ancienne puissance coloniale, la France, est presque en train de quitter le sol ouest africain, puisque même le Sénégal est actuellement en train de négocier avec la France pour la fermeture de la base militaire qui était installée à Dakar, et le Tchad a fait de même. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent sur le champ africain. Vous avez parlé de la Russie. En réalité, la Russie n'a jamais quitté l'Afrique. La Russie a beaucoup collaboré avec le Mali de Modibo Keïta. La Russie était présente en Guinée-Conakry. Donc, il y a simplement un réajustement des alliances entre la Russie et certains pays dans le contexte que nous avons. Mais il y a la présence d'autres nouveaux acteurs dont on ne parle pas beaucoup et qui sont en train de vraiment tisser leur toile. Je pense particulièrement à la Turquie, je pense à la Chine qui investit énormément dans ces pays-là. Et donc, ça ouvre de nouvelles perspectives à ces pays-là. Mais pensons que ces nouvelles perspectives-là ne veulent pas dire remplacer une colonisation par une autre. C'est juste ouvrir le champ à de nouvelles relations, ouvrir de gens à une nouvelle forme de coopération qui soit bénéfique au continent, et surtout mettre en place des mécanismes de coopération qui vont vraiment aider à un développement du continent qui n'est pas encore le cas.
Combat avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier 2025, quelle influence pourrait avoir la nouvelle administration américaine sur cette fracture entre la CEDEAO et l'AES? La politique africaine de Donald Trump, qui était souvent perçue comme désengagée durant son premier mandat, risque-t-elle de laisser un vide stratégique que des puissances comme la Russie justement et la Chine pourraient davantage exploiter en Afrique de l'Ouest?
Bon, je pense que la politique africaine ou la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique ne change pas beaucoup, quels que soient les régimes. Ça dépend vraiment des États qui ont été historiquement proches des intérêts américains, et l'Afrique de l'Ouest, malheureusement, n'en faisait pas partie, pas beaucoup en tout cas, parce que c'est la France qui était vraiment intéressée, même avec le fait que c'est elle qui nous représentait comme pen holder au sein des Nations Unies. Mais nous voyons que maintenant que la France se retire et que la Russie gagne peut-être encore beaucoup plus en diplomatie et en collaboration, donc peut-être ça va changer les intérêts et les Américains vont peut-être regarder l'Afrique de l'Ouest beaucoup plus proche. Parce que nous savons que l'Amérique est très intéressée par les positions dans le Sahel, notamment avec sa base qui a dû quitter le Niger, qui essaie de se réorganiser pour venir maintenant en Côte d'Ivoire.
Le temps file, malheureusement. J'aurais aimé poser cette dernière question à Kaka Sanoussi. L'Union africaine paraît incapable d'arbitrer cette crise régionale. Cette impasse ne révèle-t-elle les limites de l'Union africaine dans son rôle d'intégration et de médiation sur le continent, particulièrement face aux revendications de souveraineté croissant? En deux mots, si vous pouvez, malheureusement, le temps file.
Oui, bien sûr. Je pense qu'il ne faudrait pas voir simplement comme étant un propos accusatoire. Les contrats de l'Union africaine et des organisations africaines aujourd'hui à régler les crises viennent d'ailleurs sont profondes. Oui. Parce qu'il y a un travail en leur sein et aussi dans les différents partenariats noués. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la nouvelle tendance, avec l'ensemble des nouveaux pays, les nouveaux dirigeants et les certains anciens, il est possible de trouver la voie pour une souveraineté qui ne veut pas dire chasser les autres, dit s'affirmer pour faire en sorte qu'on vive beaucoup plus en harmonie, et je pense que c'est possible.
C'est un débat qui mérite beaucoup plus de temps. Voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités, Koumbaba, Ibrahim Akan et Kaka Sanoussi. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télé partenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine encore une fois. Nous vous rendez-vous dès jeudi prochain. Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir.